1963. À force de faire des projets, Eustenio sortit sans s'être arrêté à aucun. Il avait repris les habits de son sexe et sa toilette était des plus recherchées. Quand il eut marché longtemps, il se demanda ce qu'il allait faire. Il était près du couvent des Camaldules. Son instinct et sa destinée l'avaient porté là sans qu'il en eût conscience. Autrefois, Eustenio avait pénétré dans ce monastère. Pendant deux nuits, il avait erré sur les terrasses, dans les cloîtres, autour des dortoirs. Il retrouva sans peine la cellule de Claudia et, grimpant le long du berceau de jasmin qui entourait la croisée, il hésita s'il ne casserait pas un carreau pour entrer. Eustenio voulait à tout prix mortifier l'orgueil de Lélia. Ne pouvant le briser, il voulait au moins le tourmenter, et il se demandait sur qui porterait sa première tentative. Serait-ce sur Claudia, cet enfant qu'il avait trouvé jadis si bien disposé à l'écouter? Elle était devenue une grande et belle personne, pleine de dignité, de raison et de piété sincère. Son éducation n'avait été le chef-d'œuvre de l'abbesse, car nulle âme n'avait été plus près de se corrompre et nul n'avait eu autant d'efforts à faire pour s'ouvrir à la droiture et à la sagesse. Claudia sentait le mal que lui avait fait sa première éducation et, dans sa lutte avec les mauvaises influences du passé, elle avait été si effrayée de l'avenir que son caprice s'était changé en résolution inébranlable. Elle avait pris le voile. Elle était novice. Quelle gloire pour Eustenio et quelle humiliation pour Lélia s'il venait à bout d'arracher cette proie au prosélytisme. Comme Claudia, dédaignée par lui chez la courtisane où elle était venue le chercher et puis attirée ensuite à un rendez-vous où elle ne l'avait pas trouvé, et enfin arrachée à des résolutions sérieuses et à une jeunesse mûrie par la réflexion, serait une belle conquête à afficher. Peut-être en ce moment, la fière abbesse racontait aux vieilles nonnes qu'elle avait reconnu, dans l'orateur femelle de la conférence, un fa qu'elle s'était plu, dans sa réponse, à persifler et à humilier. Peut-être le lendemain, grâce au caquet des nonnes, on saurait dans toute la ville le triomphe d'éloquence que Eustenio était venu procurer à Lélia. Il lui fallait une aventure scandaleuse pour mettre les rieurs de son côté. Mais serait-ce Claudia, serait-ce Lélia elle-même que Eustenio attaquerait de préférence? Suspendu au barreau de la cellule, il distinguait, à la faible lueur d'une lampe allumée devant l'image de la Vierge, une forme blanche élégamment jetée sur une couche étroite et basse. C'était la belle Claudia dormant sur son lit en forme de cercueil. Son sommeil n'était pas parfaitement calme. De temps en temps, un soupir profond, vague réminiscence du chagrin, de la crainte ou du repentir, venait soulever sa poitrine. Son bandeau s'était dérangé et ses longs cheveux noirs, dont elle devait bientôt, comme Lélia, faire le sacrifice, retombaient sur son bras d'albâtre, mal caché par une large manche de lin. La beauté de cette fille avait tellement augmenté depuis le temps où Eustenio l'avait connue. Son attitude était si gracieuse. Il y avait en elle un si singulier mélange de volupté instinctive luttant encore, quoique faiblement, contre la chasteté victorieuse, que Eustenio, troublé, oublia ses projets et ne songea qu'à la désirer pour elle-même. Mais ce soupir qui de temps en temps n'échappait à Claudia, comme une note mystérieuse exhalée vers le ciel, causait un effroi involontaire à se débaucher. Les malédictions que Lélia avait données à Don Juan lui revenaient aussi en mémoire et ne lui semblaient plus des attaques personnelles contre lui. Après tout, se dit-il en regardant le sommeil virginal de Claudia, cette homélie ne peut m'avoir été adressée. Je ne suis point enroué. Je suis libertin, mais non pas lâche ni menteur. Je vis avec des femmes débauchées, et je n'ai pas une grande opinion de la vertu des autres. Mais je ne cherche pas à m'en assurer, car il y a toujours eu, dans le souvenir de ma première déception, quelque chose qui m'a mis en méfiance de moi-même. J'ai peut-être les manières et l'aplomb d'un Lovelace, mais je n'en ai pas la confiance superbe. Je n'ai trompé ni séduit aucune femme, pas même celle-ci, qui est venue me trouver dans un mauvais lieu et que je regarde dormir à cette heure dans son voile de novice, sans en écarter le moindre pli. Qu'ai-je de commun avec Don Juan ? J'ai eu quelques velléités de l'imiter, mais j'ai senti aussitôt que je ne le pouvais pas. Je vaux mieux ou moins que lui, mais je ne lui ressemble pas. Je n'ai ni assez de santé, ni assez de gaieté, ni assez d'effronterie pour me donner tant de peine, sachant que je puis trouver des plaisirs faciles. Si Lélia s'imagine avoir frappé juste sur moi, en écrasant Don Juan sous sa rhétorique, elle se trompe beaucoup. Elle a lancé son javelot dans le vide. Il quitta les barreaux de la cellule et se promena dans le jardin, occupé toujours des anathèmes de Lélia et sentant croître en lui non plus le désir de s'en venger en les méritant, mais de les repousser en faisant connaître qu'il ne les méritait pas. L'âme de Stenio était foncièrement honnête et amie de la droiture. Il avait la prétention, en général, d'être plus vicieux qu'il ne l'était en effet. Mais si on le prenait au mot, sa fierté se révoltait et son indignation prouvait que ses principes, à certains égards, étaient inébranlables. Il marchait avec agitation sous les myrtes du préau et toutes les paroles de l'abbesse lui revenaient à la mémoire avec une précision qui tenait du prodige. Sa colère avait fait place à une souffrance profonde. Il n'avait pu se défendre d'admirer la parole de l'abbesse. Le son de sa voix était plus harmonieux que jamais et le ton dont elle disait révélait, comme autrefois, cette conviction profonde, cette incorruptible bonne foi que Lélia avait portée dans le scepticisme comme dans la piété. Il n'avait pas bien vu son visage, mais elle lui avait semblé toujours belle, et sa taille n'avait pas, comme celle de Pulcheri, perdu son élégance et sa légèreté. Malgré lui, Stenio avait été frappé du progrès intellectuel qui s'était accompli dans cette âme déchirée, à l'âge où les femmes subissent, avec la perte de leur charme, une sorte de décadence morale. Lélia avait donné un démenti puissant à toutes les prévisions applicables aux destinées vulgaires. Elle avait triomphé de tout, de son amant, du monde et d'elle-même. Sa force effrayait Stenio. Il ne savait plus s'il devait la maudire ou se prosterner. Ce qui était bien nettement senti de lui, c'était la douleur d'être méconnu par elle, méprisé sans doute, à l'heure où il ne pouvait se défendre de la respecter ou de la craindre. Tel est le cœur humain. L'amour est la lutte des plus hautes facultés de deux âmes qui cherchent à se fondre l'une dans l'autre par la sympathie. Quand elles n'y parviennent pas, le désir de s'égaler au moins par le mérite devient un tourment pour leur orgueil mutuellement blessé. Chacune voudrait laisser à l'autre des regrets et celle qui croit les éprouver seule est en proie à un véritable supplice. Stenio, de plus en plus agité, sortit du jardin et suivit au hasard une galerie étroite soutenue d'arcades élégantes. Au bout de cette galerie, un escalier tournant en spirale sur un palmier de marbre s'offrit devant lui. Il le monta, pensant que ce passage le ramènerait aux terrasses par lesquelles il était venu. Il trouva un rideau de drap noir et le souleva à tout hasard, quoique avec précaution. La chaleur avait été accablante dans la journée. Cette tenture était la seule porte qui ferma les appartements de l'abbesse. Stenio traversa une pièce qui servait d'oratoire et se trouva dans la cellule de Lélia. Cette cellule était simple et recherchée à la fois. Elle était toute revêtue, à la voûte et aux parois, d'un stuc blanc comme l'albâtre. Un grand Christ d'ivoire, d'un beau travail, se détachait sur un fond de velours violet encadré dans des baguettes de bronze artistement ciselées. De grandes chaises d'ébène, massives, carrées, mais d'un goût pur, relevées par des coussins de velours écarlate, un prie-dieu et une table du même style sur laquelle était posée une tête de mort, un sablier, des livres et un vase de grès rempli de fleurs magnifiques composaient tout l'ameublement. Une lampe de bronze antique posée sur le prie-dieu éclairait seule cette pièce assez vaste, au fond de laquelle Stenio ne distingua Lélia qu'au bout de quelques instants. Puis, quand il la vit, il resta cloué à sa place, car il ne sut si c'était elle ou une statue d'albâtre toute semblable à elle, ou le spectre qu'il avait cru voir dans des jours de délire et d'épuisement. Elle était assise sur sa couche, cercueil d'ébène gisant à terre. Ses pieds nus reposaient sur le pavé et se confondaient avec la blancheur du marbre. Elle était tout enveloppée de ses voiles blancs, dont la fraîcheur était incomparable. À quelque heure qu'on vit la belle abbesse des Camaldules, elle était toujours ainsi. Et l'éclat de ce vêtement sans tache et sans pli avait quelque chose de fantastique qui donnait l'idée d'une existence immatérielle, d'une sérénité en dehors des lois du possible. À ce vêtement si pur, ses compagnes attachaient un respect presque superstitieux. Aucune n'eût osé le toucher, car l'abbesse était réputée sainte, et tout ce qui lui appartenait était considéré comme une relique. Peut-être elle-même attachait une idée romanesque à cette blancheur du lin qui lui servait de parure. Elle trouvait, avec la poésie chrétienne, les plus touchants emblèmes de la pureté de l'âme dans cette robe d'innocence si précieuse et si vantée. Lélia ne vit pas Stenio, quoiqu'il fût debout devant elle, et Stenio ne sut pas si elle dormait ou si elle méditait, tant elle demeura immobile et absorbée malgré sa présence. Ses grands yeux noirs étaient ouverts cependant, mais leur fixité tranquille avait quelque chose d'effrayant comme la mort. Sa respiration n'était pas saisissable. Ses mains de neige, posées l'une sur l'autre, n'indiquaient ni la souffrance, ni la prière, ni l'abattement. On eût dit d'une statue allégorique représentant le calme. Stenio la regarda longtemps. Elle était plus belle qu'elle n'avait jamais été. Quoiqu'elle ne fût plus jeune, il était impossible d'imaginer, en la voyant, qu'elle eût plus de 25 ans. Et cependant, elle était pâle comme un lys et aucun embonpoint ne voilait sur ses joues le ravage des années. Mais Lélia était un être à part, différent de tous les autres, passionné au fond de l'âme, impassible à l'extérieur. Le désespoir avait tellement creusé en elle qu'il était devenu la sérénité. Toute pensée de bonheur personnel avait été abjurée avec tant de puissance qu'il ne restait pas la moindre trace de regret ou de mélancolie sur son front. Et cependant, Lélia connaissait des douleurs auxquelles rien dans la vie des autres êtres ne pouvait se comparer. Mais elle était comme la mer calme quand on la regarde du sommet des montagnes, alors qu'elle paraît si unie qu'on ne peut comprendre les orages cachés dans son sein profond. Quand Stenio la vit ainsi, lui qui s'était toujours attendu à la retrouver déchue de toute sa puissance, un trouble, un attendrissement, un transport imprévu s'emparèrent de lui. 6 années de dépit, de méfiance ou d'ironie furent oubliées en un instant devant la beauté de la femme. 6 années de désordre, de scepticisme ou d'impiété furent abjurées comme par magie au spectacle de la beauté de l'âme. Ce que Sténio avait adoré autrefois dans l'Elia, c'était précisément cette réunion de la beauté physique et de la beauté intellectuelle. Cette force de l'intelligence qui lui avait résisté était devenue l'objet de sa haine. Il n'avait voulu garder dans sa mémoire que le souvenir d'une belle femme et, pour consoler son amour-propre d'avoir plié le genou devant l'Elia, il se plaisait à répéter que sa beauté seule l'avait ébloui et lui avait fait rêver en elle un génie qu'elle n'avait pas. En contemplant l'Elia ainsi pensive, il fut impossible à Sténio de ne pas sentir qu'entre cette femme qu'il eût pu mériter et toutes celles qu'il prétendait comparer et égaler à elle, il y avait l'abîme de l'infini. Comme un prodigue ruiné à l'aspect d'un trésor négligé qui lui échappe, il fut pris de vertige et de désespoir et s'appuya contre la porte pour ne pas se laisser tomber à genoux. L'Elia ne vit pas son trouble. Emportée par l'esprit dans un autre monde, elle n'existait pas à cet instant-là de la vie des sens. Sténio resta presque une heure devant elle, l'étudiant avec avidité, épiant le réveil du sentiment dans cette extase de la pensée, se demandant avec angoisse si elle songeait à lui en cet instant, et si c'était pour le plaindre, le regretter ou le mépriser. Enfin, elle fit un léger mouvement et parut sortir de son rêve. Mais peu à peu et sans se rendre encore bien compte de la vie extérieure. Puis elle se leva et marcha lentement dans le fond de sa chambre. La lampe envoyait au mur pâle le reflet transparent de son ombre voilée. On eût dit d'un spectre qui marchait à côté d'elle. Enfin, elle s'arrêta devant sa table et, croisant ses bras sur sa poitrine, la tête penchée en avant et l'air mélancolique cette fois, elle contempla longtemps le vase rempli de fleurs. Sténio la vit essuyer quelques larmes qui coulaient de ses yeux lentement et tranquillement, comme l'eau d'une source limpide et silencieuse. Il ne put résister plus longtemps à son émotion. « Oh !» lui dit-il en faisant quelques pas vers elle, « voici la seconde fois que je te vois pleurer. » La première fois, j'étais à tes pieds. Aujourd'hui, j'y serai encore, si tu veux me dire le secret de tes larmes. » L'Elia ne tressaillit point. Elle regarda Sténio d'un air étrange et, sans montrer ni crainte ni colère de le voir pénétrer chez elle au milieu de la nuit. « Sténio, lui dit-elle, je pensais à toi. Il me semblait te voir et t'entendre. Ton image était dans ma pensée. « Que viens-tu faire ici, tel que te voilà ?»« Ma présence vous fait horreur, l'Elia, » dit Sténio, effrayé de cet accueil glacial. « Non, » répondit l'Elia. « Mais, dit Sténio, elle vous offense et vous irrite. »« Non plus, » répondit l'Elia. « Eh bien, elle vous afflige, peut-être. »« Je ne sais pas ce qui peut m'affliger désormais, Sténio. Mon âme vit dans la présence incessante, éternelle, des sujets de sa réflexion et des causes de sa douleur. » Tu vois que ta visite ne m'émeut pas plus que ton souvenir, et ta personne pas plus que ton image. Vous pleuriez, l'Elia, et vous dites que vous pensiez à moi. Regarde cette fleur, dit l'Elia, en lui montrant un narcisse blanc d'un parfum exquis. Elle m'a rappelé ce que tu étais dans ta jeunesse, alors que je t'aimais, et tout à coup j'ai vu tes traits. J'ai entendu le son de ta voix et mon cœur a été délicieusement ému comme au jour où je me croyais aimé de toi. « Est-ce un rêve que je fais ?» s'écria Sténio hors de lui. « Est-ce l'Elia qui me parle ainsi ? Et si c'est elle, Est-ce parce que la sœur Annonciade s'ennuie de la solitude ou parce que l'abbesse des Camaldules veut railler amèrement mon audace ? Lélia ne sembla pas entendre ce que disait Sténio. Elle tenait le narcisse et le regardait avec attendrissement. « Lélia, Lélia, ne parle pas ainsi !» s'écria Sténio en tombant aux genoux de l'abbesse. « Tu brises mon cœur par une froide moquerie. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. » En sentant la main de Sténio chercher la sienne, l'abbesse recula avec un frisson douloureux. « Oh, dit-elle, ne parlez pas ainsi vous-même. Je songeais à cette fleur, au fond de laquelle je croyais voir une image qui s'est effacée. Maintenant, Sténio, adieu. » Elle laissa tomber la fleur à ses pieds. Un profond soupir s'exhala de son sein et, levant les yeux au ciel dans un mouvement d'inexprimable tristesse, elle passa la main sur son front comme pour chasser une illusion et revenir avec effort au sentiment de la réalité. Sténio attendait avec anxiété qu'elle s'expliquât sur le présent. Elle le regarda avec un mélange d'étonnement et de froideur. « Vous avez voulu me voir, dit-elle. Je ne vous demande pas pourquoi, car vous ne le savez pas vous-même. » « Maintenant que votre inquiétude est satisfaite, il faut vous retirer. Pas avant que vous me disiez ce que vous éprouvez vous-même en me voyant, » répondit Sténio. « Je veux savoir quel sentiment succède en vous à ce souvenir d'amour que vous n'avez pas craint d'exprimer devant moi. » « Aucun, » répondit Lélia. « Pas même la colère. »« Quoi ? Pas même la haine ? » ?»« Pas même le mépris, » répondit Lélia. « Vous n'existez pas pour moi. » Il me semble que je suis seul et que je regarde un portrait de vous qui ne vous ressemble pas. « Quoi, pas même le mépris ? » dit Sténio irrité. « Pas même la peur ? » ajouta-t-il en se relevant et en la suivant de près, tandis qu'elle reprenait sa promenade au fond de la cellule. « La peur moins que tout autre, » dit Lélia, sans daigner faire attention à la fureur qui s'emparait de lui. « Vous n'êtes pas encore Don Juan, Sténio. » « Vous êtes une nature faible et non perverse. Comme vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas non plus à Satan. Vous n'avez fait aucun pacte avec l'esprit du mal, car rien n'est mal comme rien n'est bien à vos yeux. Vos instincts ne vous portent point au crime. Ils repoussent l'infamie. Vous fûtes un type de candeur et de grâce. Vous n'êtes aujourd'hui le type de rien. » Vous vous ennuyez. L'ennui n'avilit ni ne dégrade, mais il efface, il détruit. Vous le savez sans doute, madame l'abbesse, répondit Sténio avec aigreur, car j'ai surpris le secret de vos nuits, et je sais que vous ne lisez pas, que vous ne dormez pas, que vous ne priez pas. Je sais que vous aussi, l'ennui vous dévore. Le chagrin me dévore, non l'ennui, répondit Lélia, avec une franchise qui brisa l'orgueil de Sténio. « Le chagrin, dit-il avec surprise, vous en convenez donc ? Oh oui, en vous voyant si calme, j'aurais dû comprendre que vous nourrissiez tranquillement et patiemment, comme jadis, le désespoir dans votre sein. Pauvre Lélia !»« Oui, pauvre Lélia, répondit l'abbesse. Je mérite d'être appelée ainsi, et pourtant... J'ai de grandes richesses, de grandes espérances, de grandes consolations, la conscience d'avoir agi comme je devais, la certitude d'un Dieu ami des malheureux et l'intelligence des joies saintes auxquelles une âme résignée peut aspirer. Mais vous souffrez, Lélia, dit Sténio, de plus en plus étonné de la trouver si sincère. Vous n'êtes donc pas résigné. Vous ne ressentez donc pas ces joies que vous comprenez ? Ce Dieu, ami des infortunés, ne vous assiste donc pas ? La paix de votre conscience n'est donc pas une félicité suffisante ? Je ne m'étonne pas que vous me le demandiez, répondit Lélia, car vous ne savez plus rien de toutes ces choses, et vous devez trouver un certain attrait de curiosité à les rapprendre. Je vais donc vous les dire. » Elle lui fit signe de s'éloigner d'elle, car il marchait à ses côtés et il n'osa pas résister à ce geste dont l'autorité semblait surhumaine. Elle s'éloigna aussi et, appuyant son coude contre le bord de la fenêtre, elle lui parla debout et le regard fixé sur lui avec assurance. « Je ne veux pas vous tromper, lui dit-elle. Je sens que ces paroles échangées à cette heure entre nous ont une solennité qu'il n'est pas en mon pouvoir de détourner. Si Dieu a permis que vous entrassiez sans obstacle dans le sanctuaire de mon repos, s'il a livré à votre curiosité malveillante ou frivole le secret douloureux de mes veilles, sa volonté est apparemment que vous connaissiez mes pensées. Et vous les connaîtrez pour en faire l'usage que Dieu a prévu et ordonné. La fierté que je professe, que j'enseigne et que je pratique est, je le sais, l'objet de votre aversion et de votre ressentiment. Vous la combattez avec âpreté dans vos entretiens, dans vos écrits, dans le sein même de mon humble école. Mais vous la combattez par un faible argument, Stenio. Vous dites que mon chemin ne mène point au bonheur, que je suis moi-même la première victime de cet indomptable orgueil que j'exalte. Vous vous trompez, Stenio. Ce n'est pas de mon orgueil que je suis victime. C'est de l'absence des affections qui font la vie de l'âme. La vie de l'âme en Dieu est une existence sublime, mais elle ne suffit pas. Parce qu'elle ne peut pas exister complète, incessante, infinie. Dieu nous aime et nous porte en lui à toute heure. Nous aussi nous l'aimons et le portons en nous, mais nous ne sentons pas comme lui à toute heure cette vie universelle qui est en lui naturelle et nécessaire, en nous accidentelle, extraordinaire, jaculatoire. L'amour infini est donc la vie de Dieu. La vie de l'homme se compose de l'amour infini qui a Dieu et l'univers pour objet et de l'amour fini ou terrestre qui a pour objet les âmes humaines associées par le sentiment à l'être humain. Cette association, c'est l'amour, l'hyménée, la génération, la famille. Qu'une créature humaine s'isole et renonce à ces éléments nécessaires de son existence, elle souffre, elle languit, elle n'existe plus qu'à demi. Elle a bien l'immensité de Dieu pour refuge, mais, faible et bornée qu'elle est, elle se perd au sein de cette immensité et s'y sent absorbée, dévorée, anéantie, comme un atome dans le foyer des astres. Quelquefois, cette absorption est enivrante, délicieuse, sublime. Il est, dans la prière et dans la contemplation, des ravissements inouïs et dont nulle joie terrestre ne peut donner l'idée. Mais ils sont rares, ils s'évanouissent rapidement et ne reviennent pas au premier cri de notre souffrance. Ils sont rares parce que notre âme, malgré tous nos efforts, a besoin pour les ressentir d'un état de puissance auquel la nature humaine ne peut aisément s'élever ni se soutenir. Ils sont fugitifs parce que Dieu ne nous permet point de passer en cette vie de l'état d'homme à l'état d'ange. Il faut que nous subissions notre sévère destinée et que notre pèlerinage s'accomplisse dans les dures conditions de la vie terrestre. Au milieu de sa rigueur, Dieu est bon et prodigue envers nous. Il a permis que nous eussions sur cette terre des affections tendres, fortes, exclusives. Mais il a voulu, pour sanctionner ces affections, qu'elles revêtissent un caractère de grandeur, de justice et de sublimité, moyennant lesquelles elles ressemblent à l'amour divin, parce qu'elles s'y retrempent et s'y confondent. Et sans lesquelles elles se matérialisent, s'avilissent et s'éteignent, parce que l'amour divin ne les inspire et ne les gouverne plus. Ainsi, quand les générations se corrompent ou s'endorment, quand le progrès de la justice est entravé sur la terre, quand les lois ne sont plus en harmonie avec les besoins de ce progrès et que les cœurs font de vains efforts pour vivre selon la liberté qui fait la sincérité et la fidélité des affections, Dieu retira l'amour terrestre, ce rayon dont il l'avait éclairé. Les nobles instincts de l'homme retombent au niveau de la brute. Les mystères sacrés de l'hymen s'accomplissent dans la fange ou dans les pleurs. Les passions deviennent cuisantes, jalouses, meurtrières. Les appétits grossiers, impudiques et lâches. L'amour est une orgie, le mariage un marché, la famille un bagne. Alors, l'ordre est un supplice et une agonie, le désordre un refuge, c'est-à-dire un suicide. Eh bien, ce désordre, nous y vivons, Stenio. Vous, parce que vous vous êtes jeté dans la débauche, et moi, parce que je me suis relégué dans le cloître. Vous, parce que vous abusez de l'existence, et moi, parce que j'ai renoncé à exister. Nous avons transgressé tous les deux les lois divines, faute d'avoir vécu sous des lois humaines qui nous permissent de nous entendre et de nous aimer. Les préjugés de votre éducation et les habitudes de votre esprit, l'exemple de l'humanité, la sanction des lois, vous eussent donné sur moi des droits de commandement et de possession que ma volonté seule eût pu ratifier et que ma volonté n'a pas voulu ratifier, craignant l'abus inévitable où vous entraînerait tant de puissances réunies contre moi. À ne parler que d'un seul de vos droits exclusifs, la société ne me donnait aucune garantie contre votre infidélité, et tout au contraire, elle vous donnait contre la mienne les garanties les plus avilissantes pour ma dignité. Ne dites pas que nous eussions pu nous élever au-dessus de cette société et braver ses institutions en contractant une union libre de formalités. J'avais fait cette expérience et je savais qu'elle est impossible. Car là, moins encore que dans le mariage, la femme peut être la compagne et l'égale de l'homme. Les intérêts sont opposés. L'homme croit les siens plus précieux et plus importants. Il faut que la femme y sacrifie les siens et s'engage dans une carrière de dévouement sans compensation possible de la part de l'homme, car l'homme tient à la société. Quoi qu'il fasse, il ne peut s'isoler et la société repousse le lien illégitime. Il faut donc que l'existence de la femme disparaisse, absorbée par celle de l'homme. Et moi, je voulais exister. Je ne l'ai pas pu, j'ai préféré scinder mon existence et sacrifier ma part de vie humaine à la vie divine que de perdre l'une et l'autre dans une lutte vaine et funeste. Vous, Stenio, vous aviez compris instinctivement mes prétentions et mes droits, car vous m'aimiez plus que vous n'eussiez aimé aucune autre femme. Mais il n'était pas en votre pouvoir d'y acquiescer, car comme il y a pour les hommes deux existences, l'une sociale et l'autre individuelle, il y a en eux deux natures, deux âmes pour ainsi dire, l'une qui veut l'adhésion de la société, l'autre qui veut les joies de l'amour. Or, quand ces deux existences sont en guerre, le cœur de l'homme est en guerre contre lui-même. Il sent que l'idéal n'est pas dans une société injuste et corrompue, mais il sent aussi que son idéal ne peut subsister dans l'amour sans la sanction de la société. Qu'il rompe avec l'amour ou avec la société, il scinde également sa vie. Dieu a mis en lui des instincts de tendresse et des besoins de bonheur. Voilà pour son amour. Mais il a mis aussi en lui des instincts de dévouement et des sentiments de devoir. Voilà pour son rôle de citoyen. Les lois ont concilié ses besoins et ses devoirs de telle façon qu'en renonçant à son rôle de citoyen, l'homme est sacrifié à la femme et qu'en renonçant à l'amour, il est sacrifié à la société. Nous ne pouvions ni l'un ni l'autre sortir de ce dédale. Aussi, Stenio, nous nous sommes arrêtés sur le seuil. Vous avez renoncé à l'amour. Que ne puis-je dire ? Vous y avez renoncé pour la société. Mais cette société qui vous gouvernait vous faisait horreur. Vous avez compris qu'on ne pouvait s'élever sur ses abus sans lâcheté. Il vous restait un grand rôle, la lutte contre ces abus. Ce rôle de réformateur vous a lassé trop vite et vous vous êtes jeté dans l'écume du torrent que vous ne vouliez ni suivre ni remonter. Vous vous y laissez bercer comme un insecte qui se noie dans la lie des coupes et qui meurt dans ce vin où l'homme puise la vie ou l'ivresse, la force généreuse ou la fureur brutale. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes un être faible et que vous n'existez pas. Quant à moi, je souffre. Si c'est là ce que vous voulez savoir et ce qui peut vous consoler de votre ennui, sachez-le bien, ma vie est un martyr. Car si les grandes résolutions enchaînent nos instincts, elles ne les détruisent pas. J'ai résolu de ne pas vivre. Je ne cède pas au désir de la vie. Mais mon cœur n'en vit pas moins, éternellement jeune, puissant, plein du besoin d'aimer et de l'ardeur de la vie. Ce feu sans aliment me consume. Et plus mon âme s'exalte dans la vie divine, plus elle se renouvelle dans le regret et le besoin de la vie humaine. Ce cœur si froid, si altier, si insensible selon vous, Stenio, est un incendie qui me dévore. Et ces yeux que vous n'aviez vus pleurer qu'une seule fois versent chaque nuit devant ce crucifix des larmes qu'ils ne sentent même plus couler, tant la source en est féconde, intarissable. Et ses larmes tombent sur le marbre insensible. Ah, Alléluia, qu'elles tombent sur mon cœur. Stenio, emporté par un retour invincible de passion, se précipita aux pieds de Lélia et les couvrit de baisers. « Tu aimes ? » s'écria-t-il. « Oh oui, tu aimes ! Je le sais, je le comprends maintenant, toi que j'ai tant méconnu, tant calomnié. » J'aime, répondit Lélia en le repoussant avec une fermeté mêlée de douceur, mais je n'aime personne, Stenio, car l'homme que je pourrais aimer n'est pas né, et il ne naîtra peut-être que plusieurs siècles après ma mort. Oh mon Dieu, dit Stenio en sanglotant, ne puis-je être cet homme? Toi, prophétesse qui a arraché au ciel les secrets de l'avenir, ne peux-tu faire un miracle? Ne peux-tu faire que j'anticipe sur le cours des âges et que, seul parmi les hommes, je mérite ton amour ? Non, Stenio, répondit-elle, je ne puis t'aimer, car je ne puis faire que tu m'aimes.